Nous sommes de retour à l'émission Au gré du temps en compagnie de Gérard Poirier. Monsieur Poirier, une carrière fantasmagorique, pourrait-on dire, parce que vous vous êtes promené dans un vaste éventail. Vous avez bien sûr joué d'importants rôles dramatiques, mais vous avez aussi incarné des personnages qu'on pourrait qualifier de loufoques. Je pense par exemple à la télévision, certains rôles, ce rôle que vous avez interprété dans Le Grenier, par exemple, une émission qui s'adressait aux adolescents, où vous jouiez un personnage d'origine orientale qui avait vraiment toute une personnalité.
Sadou Bidisha, voilà. L'auteur des textes et le réalisateur de l'émission me disent simplement « Il faut que tu prennes un accent. » Ben, je lui dis « Moi, je veux bien, mais quel accent ?» Ben, l'accent d'un Indien en français. Je dis « Je n'ai jamais entendu un Indien parler en français. » Je lui dis « Donnez-moi un disque, donnez-moi une référence. » Ils n'ont rien trouvé. Alors, j'ai inventé cet accent de Sadou Bidisha. Mais c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup plu. Il y avait une poésie, une tendresse là, dans tout ça qui plaisait aux jeunes.
De manière plus ancienne, il y a eu aussi, et je m'en souviens, ce qui trahit un peu mon âge, d'une émission culte, Opération Mystère.
Ah, ça a été...
Mais où vous jouiez un martien.
Oui, un martien, mais un bon, parce qu'on avait des méchants aussi. Oui. J'étais un bon.
Il y avait Hervé Brousseau, Louise Marlowe, oui. Marcel Cabé.
Oui. Ah oui, il y avait de grands noms, absolument. Et c'était très en avance sur son temps, cette émission-là. D'aller se promener comme ça sur des planètes, c'était pas fréquent à cette époque-là.
Avec des effets spéciaux pour l'époque,
oui.
Qui étaient quand même assez extraordinaires.
Oui, je me rappelle que je volais. J'avais une mante et je volais. Je ne me souviens pas comment on réalisait ça, mais on y arrivait.
À la télévision toujours, et là on revient au rôle dramatique, les téléthéâtres.
Ah, les téléthéâtres, grande époque. Très grande époque. Et je pense qu'il n'est pas superflu de rappeler que Radio-Canada, à ses débuts, était le seul diffuseur et qu'il avait reçu une mission qui était une mission culturelle. Donc, Radio-Canada a été un éveilleur extraordinaire pour les Québécois. L'heure du concert avec M. Deslauriers, grand chef d'orchestre, où les Québécois ont pu faire connaissance avec de grandes œuvres musicales qu'ils ne soupçonnaient même pas. Même chose pour le ballet et aussi pour le théâtre. Là, tout à coup, les fenêtres se sont ouvertes, on a présenté les plus grands auteurs dans de très bonnes réalisations, si l'on considère les moyens dont nous disposions à l'époque, qui étaient très rudimentaires.
Je vous évoquais avant l'émission « Deux sur la balançoire ».
Oui.
Une adaptation d'une pièce américaine.
Oui.
Qui est encore très vivante dans mon esprit, parce que c'était deux personnages, Monique Miller et vous, qui tentiez de vous retrouver sans jamais vous parler physiquement, mais ne serait-ce que par l'intermédiaire du téléphone. Et comme enfant, ben, on se disait, vont-ils un jour réussir à se parler, ces deux-là?
Eh bien non, ils n'y réussissaient pas.
Mais toutes ces réalisations étaient d'une qualité formidable.
Oui, ça c'est une chose qu'il faut rappeler aussi. Il m'a été donné récemment... par Monique Lepage, vous vous souvenez de cette comédienne qui était si belle, elle a chez elle quelques copies de ces téléthéâtres, dont un que j'ai fait avec elle, Les Papiers d'Asperne. Et je l'ai vu et j'ai été absolument émerveillé de ce que nous arrivions à faire à cette époque-là. Il faut dire que le réalisateur était Paul Blouin, qui était le grand maître des téléthéâtres. J'ai beaucoup appris avec Paul Blouin, énormément. C'est devenu aussi presque un ami, un grand camarade en tout cas, oui. Ah, que de souvenirs.
Parce que tout était à faire, tout était à découvrir. La télévision était naissante. Vous arriviez dans ce médium qui n'était pas maîtrisé par personne, par quiconque.
Non, c'est ça qui est merveilleux de cette période-là, c'est que c'était une période de créativité. personne ne savait exactement comment se servir de cet appareil, qui était énorme à l'époque. C'était pour nous comme un jouet dont on ne connaissait pas la mise en place.
Mais dont vous avez bien tourné la clé.
Oui, alors tout le monde était intéressé, aussi bien les acteurs que les maquilleurs, que les gens qui faisaient des costumes, que les gens qui réalisaient, enfin qui écrivaient. C'était une création de tout ce monde-là.
Vous avez évoqué l'heure du concert qui nous faisait découvrir de belles voix, de grandes voix québécoises, celle de Léopold Simoneau, entre autres. Léopold Simoneau, qui a été un ténor québécois considéré comme l'un des meilleurs interprètes au 20e siècle des opéras de Mozart. Il était lui aussi issu d'un milieu modeste, époux de Pierrette Allary, qui a fait une grande carrière également, qu'il a épousée en 1946. Il a fait ses premiers pas sur scène en 1941. On va l'entendre cette fois dans un extrait de L'Élysir d'Amor, Una furtiva lagrima. C'est toujours agréable de réentendre ces grandes voix, M. Poirier.
Absolument. Léopold Simoneau a été une des très grandes voix du 20e siècle. Il a été reconnu comme étant le grand ténor mozartien du 20e siècle. L'écouter est un pur bonheur. Hein. Et l'écouter avec sa femme, parce qu'ils ont fait, je crois, des duos ensemble qui ont été enregistrés.
Dans ce que nous venons d'entendre, je précise que c'était aussi l'accompagnement de l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin, parce que M. Simoneau a connu une carrière internationale, qui était dirigée par Paul Strauss.
Oui, c'est très important. Il a fait une très, très grande carrière, avec sa femme aussi. Elle n'avait pas une voix puissante, Pierrette, mais c'était tellement subtil, sa façon de chanter, l'intelligence de la musique qu'elle avait aussi. C'est une très grande chanteuse.
Vous parlez, on a mentionné qu'il était issu d'un milieu modeste. Le regretté Serge Belair, qui était un ami à moi, me racontait qu'il habitait tout juste en face parce qu'il a été élevé par sa grand-mère et qu'il entendait ses vocalises le matin. Et alors qu'il était très jeune, il était fasciné par cette vibration des cordes vocales très tôt le matin, alors que certains auraient pu être horripilés par ça.
Mais il a eu de la chance de pouvoir s'éveiller comme ça.
Voilà. Alors que Dieu ait son âme aussi à Serge.
Il y a une petite anecdote, non pas une anecdote, une petite parenthèse. Pierrette Alary était la fille d'Amanda Alary, qui a été la première maman plouf de la télévision.
Vous n'avez pas joué dans les ploufs.
Dans le film, oui.
Oui, mais pas parce que vous jouiez à ce moment-là dans le film Le curé Falbèche.
Falbèche,
voilà. Oui. Mais dans la série,
non,
vous
n'y étiez pas. Joué dans la série.
Mais vous étiez de la pension Velder à ce moment-là.
Ah oui, oui. Mais c'était c'était conjoint, ça. La pension Velder se faisait en même temps que la famille plouf.
Et tout cela se faisait en direct.
Ah ben oui, absolument. On n'imaginait pas autre chose.
D'ailleurs, votre entrée dans le monde du théâtre, c'est aussi beaucoup par la porte de Radio-Canada, parce que vous êtes allé passer une audition au moment où la télévision était naissante, et on vous a donné tout de suite un rôle, je crois que c'était dans « Beau temps, mauvais temps ».
C'est ça. Oui, c'était « Beau temps, mauvais temps », une série pour les adolescents, qui a très bien marché. Et encore une petite parenthèse, ma camarade de jeu était Louise Marlot, qui à ce moment-là avait peut-être 7 ou 8 ans. Elle a débuté avec moi, Louise.
Ah oui. Alors vous étiez tous de nouveaux débutants.
Oui, exactement, exactement, oui.
On a écouté Léopold Simoneau, cet extrait d'opéra. Est-ce que vous êtes un amant de l'opéra?
J'aime beaucoup, beaucoup l'opéra. Je dis parfois, un peu par blague, que si j'avais à connaître une autre vie, je souhaiterais être ténor d'opéra. Pour la très bonne raison que l'opéra, quant à moi, c'est le dernier refuge des très grands spectacles, avec des décors fabuleux, avec des costumes fastueux. Tout ça, j'adore ça.
Bon. C'est du grand théâtre.
Oui, oui, grand, grand déploiement. Nos troupes de théâtre ne peuvent pas présenter quelque chose qui pourrait concurrencer. Ça coûterait trop cher, de toute façon. Oui. Alors, j'adore l'opéra. Et ça vient aussi beaucoup d'une chose qui remonte à mon enfance. Le Metropolitan Opera de New York diffusait tous les samedis... Est-ce que ça pouvait être en direct à l'époque? Je crois que oui.
Oui.
Les opéras du Metropolitan.
Et je crois que c'était, et permettez-moi aussi une parenthèse, je crois que c'était commandité par une pétrolière
Exactement.
Qui était Texaco.
Exactement.
C'est exact?
Oui, tout à fait. Quelle mémoire vous avez. Vous auriez pu devenir comédien. Oui, alors ça, c'était devenu sacré chez moi. Il y avait notre notre poste de radio, là, qui était sur pied à l'époque, et on se mettait la tête en dessous, là, pour mieux entendre. Et c'est là où j'ai découvert des tas de chanteurs, des tas d'œuvres aussi, que je ne connaissais rien de l'opéra.
Et peut-être bien Maria Callas.
Maria Callas est venue après. Maria Callas, ça, c'est les années...
Fin 50,
oui. Début 60.
Voilà. Oui. Alors, si on écoutait Maria Callas.
Ah, avec joie.
Et nous écouterons Maria Callas.
Oui, voilà.
Callas, qui a connu une vie tragique, peut-on dire, qui a probablement aussi contribué d'une certaine manière, et même si ce n'est pas le souhait que nous adresserions à quiconque, qui a peut-être contribué à son art. Ses difficultés amoureuses, on connaît cet épisode aussi avec le grand amateur grec, mais néanmoins, c'est une voix unique qu'on ne retrouve plus.
Non, on ne retrouvera plus une Callas, je ne crois pas. Et l'un de mes grands regrets, c'est de n'avoir pas vu Callas sur scène.
Elle est pourtant venue à Montréal.
Elle est venue à Montréal, mais c'était, je crois, en fin de carrière qu'elle est venue à Montréal. Et je devais jouer au théâtre, donc je n'ai pas pu aller l'entendre.
Parce que je me souviens d'une entrevue qu'elle avait donnée à l'animatrice Jeannine Paquet à Radio-Canada lors de son passage. Je ne pourrais pas dire en quelle année, peut-être au début des années 70, mais c'était vraiment une castafiore.
J'ai dit tantôt, en parlant, je crois, de la chanteuse là, chez qui j'avais acheté ce vase, Madame
Suzy Salida.
Je parlais de tragédienne, de Madame Damia aussi. Oui. Callas avait cette qualité, en plus de sa voix sublime, c'était une extraordinaire comédienne. Une tragédienne qui faisait passer le frisson chaque fois qu'elle apparaissait sur scène. Une entrée de Callas sur scène, c'était un choc pour tous les gens qui étaient dans la salle, hein, avant même qu'elle ait ouvert la bouche.
Quittons Callas, revenons à Gérard Poirier et à ses aventures de voyage et à ce contact particulier et privilégié que vous avez noué avec la Ville Lumière, Paris.
Oui, ben ça vient justement de ce que nous disions précédemment, à l'effet que j'ai beaucoup vu de films français. J'ai donc appris des tas de choses, qu'on pouvait parler ma langue avec une élégance extrême. Ça, c'était très important. Et dans les films de cette époque-là, le cinéma commençait à sortir dans les rues, à montrer Paris. Et c'était pour moi des découvertes extraordinaires. Je revoyais des films parce qu'à cette époque-là, on pouvait rester assis sur son banc et voir deux fois, trois fois, quatre fois le même film. Si
donc, vous avez découvert Paris avant même d'y être allé.
Oui, exactement. Quand je suis allé à Paris pour la première fois en 58, je savais qu'en tournant un coin de rue, m'apparaîtrait tel monument. Je le savais. Alors, j'avais déjà une connaissance de cette ville que je n'ai jamais perdue. Au contraire, ça s'est amplifié avec les années.
Quel aspect le plus attrayant de Paris vous a fasciné? Qu'est-ce qui fait que Paris vous a fasciné à ce point?
La beauté extraordinaire de ces maisons, de ces monuments. Et puis, il faut la Seine aussi. La Seine, c'est le cœur de Paris, la Seine. Et quand je vais à Paris, mon premier soin, c'est d'aller voir la Seine. C'est d'abord et avant tout, ce qui me séduit, c'est la Seine. Et tout ce qui est construit le long de la Seine, ce sont des monuments absolument fabuleux. Fabuleux.
Que diriez-vous si Chevalier, Maurice de son prénom, nous racontait mon vieux Paris?
Oh, oui, j'en suis tout à fait d'accord.
Parmi toutes les cités, pour fêter, papoter, le monde entier est d'accord, il t'admire, te désire. Alors, moi, simplement, puisque je t'aime autrement, peux-tu me laisser te dire, oh Paris, 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 on t'a chanté sans répit. Oh Paris, 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 sur ton charme, on a tout dit. Aucune ville au monde n'a des attraits, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime ainsi, je te dis. Ah, ce que je retrouve en toi, ce qu'en ton ciel je revois, ce qui cause mon émoi, mieux que les palais de terre, quoi. C'est le petit nid, simple et gentil, où j'ai tout appris. Ah, oh, Paris, 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 mon bon vieux Paris. Thank you.
répit. Ah, Paris, 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 sur ton charme, on a tout dit. Aucune ville au monde n'a des attraits, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime ainsi, je te le dis. Ah, ce que je retrouve en toi, ce qu'en ton ciel je revois. Ce qui cause mon émoi, mieux que les palais de terre, c'est le petit nid, simple et gentil, où j'ai tout appris. Ah, Paris, 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 mon vieux, mon bon vieux Paris.
Maurice Chevalier, Paris, c'est comme un mariage parfait.
Oui, c'était une sorte de roi de Paris, Maurice Chevalier. On n'imagine pas, là, aujourd'hui, l'importance qu'ont eu ces chanteurs, c'est fantastique. Ils avaient une influence considérable, non seulement en France, mais dans tous les pays francophones, et même les pays non francophones. Il ne faut pas oublier que Chevalier a fait une carrière à Hollywood. Il a fait plusieurs films à Hollywood.
Est-ce que vous auriez aimé, vous, Gérard Poirier, faire carrière à Hollywood?
Je n'y ai jamais pensé. J'y ai jamais.
Pourtant, vous auriez pu.
Ben, il aurait fallu qu'on me demande d'abord et avant tout. Non, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est peut-être une carrière à Paris. Ça, oui. Et j'aurais pu y arriver quand, par exemple, M. Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud sont venus à Montréal. Yvette Brindamour, directrice de Rideau Vert, a accueilli le mari et la femme, parce que c'est Madeleine Renaud qui venait jouer une pièce où elle est dans un tas de sable, là où elle s'enfonce peu à peu. Et donc, j'ai vu beaucoup Jean-Louis Barrault. Et Jean-Louis Barrault m'a vu jouer une pièce que je jouais, je ne sais pas. Et il m'a dit, écoutez, je n'ai pas dans mon groupe, enfin dans ma troupe, un jeune premier comme vous. Est-ce que ça vous intéresserait? J'ai failli m'évanouir. Et on en a discuté. À cette époque-là, j'étais marié, j'avais deux enfants. Ce qu'il m'offrait comme salaire était nettement insuffisant pour amener avec moi une femme et des enfants.
Alors, on terminera cette émission sur la question salariale.
Mais ça, son intérêt.
Voilà. On vous retrouve la semaine prochaine, M. Poirier.
Très volontiers.
Et on va se quitter avec un poème de Paul Verlaine, chanté par la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Le temps de vous dire que cette émission s'est effectuée sous la supervision technique de Guy Lafrance. À l'animation et réalisation, c'est Armand Dubois qui vous souhaite de passer une belle semaine et de nous revenir en pleine forme pour la suite avec Gérard Poirier.